Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, bienvenue sur les planches des nouveaux chemins. On est ensemble jusqu'à 11h. Cette émission est préparée tous les jours par une équipe de costumiers, maquilleurs, souffleurs, auteurs, compositeurs que sont Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Pauline Darvet, Tristan Grenassia et Walter Galvani. Elle prend des airs de comédie musicale quand Mydia Portis-Guérin est à la réalisation, comme cette semaine, avec aujourd'hui à la prise de son Yanis Djoudad. À la fin de la pièce, ne quittez pas la salle, car ce sera l'heure du journal de la philosophie. Présenté par François Nudelman, son invité aujourd'hui sera Pascal Angèle, qui viendra vous parler de son livre « Les lois de l'esprit », paru aux éditions Ithac. Le superbe appareil de la scène, la face du théâtre qui change 5 ou 6 fois entièrement la représentation d'un poème. La magnificence des habits, l'excellence des comédiens, de qui l'action farde les paroles, et la voix, qui n'est qu'un son qui meurt en naissant. Tout cela étant joint ensemble, est capable de donner des grâces à ce qui n'en a point, d'éblouir par cet éclat les yeux des plus clairvoyants, et de décevoir l'oreille la plus juste et la plus sensible au discernement des bonnes ou des mauvaises choses. La confrontation Rousseau-Diderot lundi, l'un pour lequel le théâtre est moralement dangereux, l'autre pour qui le comédien doit être dépourvu de toute sensibilité pour bien jouer, et après la méthode Stanislavski et l'Actor Studio hier mardi, il est temps aujourd'hui de remonter plus en amont encore, au moment où le comédien s'identifie au rhéteur, à celui qui maîtrise les codes d'élocution et de déclamation à la manière d'un prêtre ou d'un avocat. Au début du siècle de Molière, le metteur en scène n'existe pas. Le théâtre naît du travail entre un auteur et des comédiens, et de la performance d'un comédien devant un public. Tout se passe alors dans la manière de dire, d'interpréter, de jouer un texte de manière à ce que son sens et ses effets puissent toucher l'âme des spectateurs. Mais l'art de déclamer implique une technique du corps, une maîtrise des organes, de la langue, des yeux, des paupières, une grâce d'autant plus visible qu'elle donne à voir une adéquation parfaite entre ce qui est dit et ce qui est montré, entre celui qui interprète et celui qui agit, c'est-à-dire entre le comédien et l'acteur. Alors comment rendre le visage parlant? Comment travailler le naturel pour faire entendre le vrai? Jouer est un travail de l'esprit, mais dont le corps va peu à peu s'émanciper pour parler par lui-même à mesure que les personnages gagnent en épaisseur et que Molière, en voulant travailler pour la rate plus que pour l'esprit, ne fasse éclater la force de la scène.
Molière est tellement le théâtre en personne qu'il est peut-être le seul homme illustre qu'il vaudrait mieux ne pas tenter de faire revivre sur la scène. Molière est la plus claire expression du génie de notre race, car sublime ou burlesque, il ne cesse jamais d'être le bon sens même. Molière est parmi les grands hommes celui dans la France pourrait le moins aisément se passer. Molière est nécessaire, il est une preuve permanente. Et l'on a constamment l'occasion de clouer le bec à des gens qui voient faux en leur disant « Eh bien, et Molière ?»
Reprenez hautement ce noble caractère. Un véritable roi n'est ni mari ni père. Il regarde son trône et rien de plus. Régnez. Rome vous craindra plus que vous ne la craignez.
Retenez-moi, Dieu étrange.
Je ne comprends pas. La pièce de Corneille serait-elle mauvaise?
Mais non, elle est fort bonne, la pièce de Corneille.
Ah,
demandes excuse au roi, tu demandes excuse à monsieur, tu demandes excuse au cardinal, tu demandes excuse à tout le monde. Tu annonces le docteur amoureux et tu vas les faire rire.
Un travail.
Bonjour Sabine Chaouche.
Bonjour Adèle.
Alors, bon, vous êtes spécialiste de l'art de l'acteur au XVIIe et au XVIIIe siècle et on a entendu Sacha Guitry dire en début d'émission que Molière est nécessaire et pourtant, comme on l'entend dans l'extrait de film, le film d'Ariane Nouchkine qui date de 1978, consacré à Molière, interprété par Philippe Cobert, Molière a bien du mal à faire rire le roi et quand il le fait, c'est en prononçant des sons inarticulés qui sont même pas de l'ordre de la parole ou de la déclamation, mais vraiment juste de l'ordre du son, le degré zéro de l'expression verbale, Sabine Chaouche.
Oui, Molière était influencé par la comédie italienne, donc dans cet extrait, en fait, la pièce inspire plus de l'improvisation ou même de la farce. Et il plaît au roi, mais c'est dans le genre tragique, en fait, que Molière était détesté. Et il a bâti toute sa carrière sur la comédie. Et en fait, il était détesté dans le genre tragique parce qu'il n'arrivait pas justement à déclamer comme il fallait. Parce qu'au XVIIe siècle, en fait, l'acteur était considéré comme un être infâme, quoi, parce qu'il avait un métier infâme, et il n'y avait pas vraiment de traité sur l'art de l'acteur. Donc, les acteurs au XVIIe siècle, notamment ceux des grands théâtres parisiens, comme l'Hôtel de Bourgogne ou le Marais, se sont inspirés en fait de codes qui étaient issus de la rhétorique. Donc la rhétorique qui avait été déjà analysée, étudiée sous l'Antiquité. Donc on a redécouvert Quintilien, Cicéron. Les rhétoriciens du XVIIe siècle ont repris les codes. Les comédiens, pour pouvoir bien déclamer, se sont donc inspirés à leur tour des codes de la rhétorique, de ce que l'on appelait l'actio, qui était la quatrième part de la rhétorique, parce qu'il y a l'inventio, quand on invente quelque chose, la dispositio, c'est la composition, l'élocutio, qui correspond aux figures de style, et à ce moment-là, on a l'actio, qui correspond à la voix et au mouvement de l'orateur. Et en cinquième partie, il y a la memoria, donc la mémoire. Donc Molière, lui, était celui qui n'arrivait pas justement à appliquer toutes les règles de la déclamation. Et donc, il s'est spécialisé dans la comédie, d'où son succès avec le roi. Et il continuera surtout à faire des comédies dès que le roi l'aura pris sous son aile, en fait.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que la codification qui était à l'œuvre à l'époque concernait plutôt les tragédies que les comédies? Puisque c'est en faisant de la comédie que Molière va changer cette codification-là du jeu de l'acteur.
Oui, alors il faut bien distinguer aussi le contexte historique. Parce que évidemment, les règles qui étaient faites pour l'orateur étaient faites pour des discours sérieux ou même pour le prédicateur. Donc évidemment, la tragédie se rapproche le plus de ce type de discours. Et les règles ont été surtout utilisées donc dans la tragédie. Mais si l'on regarde le contexte historique et les genres théâtraux, on s'aperçoit que la comédie avant Molière, donc de 1629, date de la reprise des représentations à Paris en 1629 à l'Hôtel de Bourgogne, jusque dans les années 1660, sont surtout des comédies qui sont basées sur, au niveau de l'écriture, sur de grandes tirades, sur de gros blocs de texte, ou à la limite, et même dans les pastorales, donc un genre mineur des années 1630 à 1640. Donc l'acteur récite ou déclame, enfin peut trouver, si vous voulez, le moyen d'appliquer les règles pour un discours. Alors que lorsque Molière arrive à Paris, enfin lorsqu'il revient à Paris plutôt, il a différents types de comédies. Donc, il a la grande comédie, les comédies en trois actes ou les pièces en un acte. Et c'est surtout dans les pièces en prose qu'il va révolutionner le jeu. Parce qu'évidemment, toute tragédie est en vers et ne peut pas être en prose au XVIIe. Donc, dans la comédie, il va introduire de plus en plus de gestes issus de la vie quotidienne qui vont à l'encontre des gestes de l'actio oratoire. Et à ce moment-là, il va donner même une place prépondérante aux gestes et il va renouveler totalement la diction, la manière de dire la comédie.
Oui, c'est ça, le geste, c'est à entendre au sens large. C'est pas seulement le geste du corps, c'est le geste de la parole, puisque la parole elle-même est une forme d'action. Vous avez employé tout à l'heure le terme à la fois de comédien et d'acteur. À l'époque, la distinction tient entre les deux, c'est-à-dire que le comédien est celui qui interprète un texte, alors que l'acteur est vraiment dans l'actio dont vous venez de parler, donc plus dans une action en tant que telle, dans un geste.
Au XVIIe siècle, en fait, l'acteur, c'est un personnage. Quand on voit la liste des acteurs sur une pièce, ça veut dire la liste des personnages. Et au XVIIe siècle, le comédien, c'est celui qui reproduit quelque chose, qui imite des passions. Et la notion d'acteur, elle va apparaître au sens moderne du terme, celui qui interprète un texte, va apparaître au XVIIIe siècle, au moment où on va commencer à contester les règles de l'actio oratoire, où l'on va vouloir plus de spontanéité, d'impulsivité ou d'élan sur scène, et où on va demander vraiment à l'acteur une sincérité, c'est-à-dire de se faire une illusion intérieure. C'est-à-dire, on peut rapprocher les débats du XVIIIe siècle des débats entre Stanislavski, dans la construction
du personnage, dont on parlait hier. Oui.
Justement, lorsqu'il critique tous ces gens qui reproduisent des gestes factices, etc., en fait, on peut rapprocher cela du XVIIe siècle où il y avait des codes pour reproduire des gestes, imiter des passions, et le XVIIIe siècle où justement on veut se défaire de ces codes que l'on juge désormais trop artificiels. Et à ce moment-là, on demande vraiment à l'acteur de s'identifier au rôle, c'est-à-dire de transposer sa nature, sa propre nature, sur le personnage. Donc de s'investir totalement dans le rôle.
Donc c'est vraiment la notion de comédien qui naît à ce moment-là. Alors, puisqu'avant, au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle et avant Molière, le comédien n'est finalement qu'un récitant qui doit être sincère dans la façon dont il récite le texte, mais il ne joue pas.
Voilà.
À proprement parler, il n'y a pas de jeu du comédien au début du XVIIe siècle.
Voilà, et le comédien, lorsqu'on lit les définitions du comédien au XVIIe siècle, le mot est teinté aussi de négativité, parce qu'il s'apparente dans la vie civile à celui qui simule, qui feint, qui est un séducteur. Donc l'acteur à proprement parler n'émerge qu'à partir des années 1730.
Alors dans votre livre, Sabine Chaouch, qui s'intitule « L'art du comédien, déclamation et jeu scénique en France à l'âge classique de 1629 à 1680 », vous citez beaucoup d'auteurs qui aujourd'hui sont inconnus, mais qui insistent sur la façon dont le comédien, à l'époque en tout cas, doit jouer, doit mettre en œuvre différentes parties de son corps, de ses organes, ses paupières, sa bouche, son regard, ses mains. Donc toute une gestuelle, mais qui est très très précise, qui ne concerne uniquement au début que le registre de la déclamation et non pas celui du jeu, mais qui implique du coup une façon d'être dans le texte pour le comédien, une façon de dire un texte. Le texte existe avant que le comédien ne le récite, mais selon le ton qu'il va employer, on n'entend pas le même texte. Alors je vous propose d'écouter tout de suite deux extraits complètement opposés. D'un côté, là, en premier lieu, Maria Cazares qui récite les adieux de Bérénice, et ensuite un extrait de l'Esquive d'Abdelatif Kechiche, hein, qui date de 2004, où on entend des jeunes étudiants en banlieue interpréter Marivaux. Écoutez.
Prince trop généreux, en quelle extrémité me jetez-vous tous deux? Soit que je vous regarde ou que je l'envisage, partout du désespoir je rencontre l'image. Je ne vois que des pleurs et je n'entends parler que de troubles, d'horreur, de sang prêt à couler. Mon cœur vous est connu, Seigneur, et je puis dire qu'on ne l'a jamais vu soupirer pour l'Empire. La grandeur des Romains, la pourpre des Césars n'ont point, vous le savez, attiré mes regards. J'aimais, Seigneur, j'aimais. Je voulais être aimé. Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmée. J'ai cru que votre amour allait finir son cours. Je connais mon erreur et vous m'aimez toujours.
Puis-je me flatter que vous êtes de même à mon égard?
Hélas, comme vous ne seriez que Perrette ou Margot, quand je vous aurais vu le martinet à la main descendre à la cave, vous auriez toujours été ma princesse.
Puis-je de si beaux sentiments être durables?
Pour les fortifier de part et d'autre, jurons-nous de nous aimer toujours, en dépit de toutes les fautes d'orthographe que vous auriez faites sur mon compte.
J'ai plus d'intérêt à ce serment-là que vous, et je le fais de tout mon cœur.
Votre bonté m'éblouit, et je me prosterne devant elle.
Arrêtez-vous. Je ne saurais vous souffrir dans cette posture-là, et je serais ridicule de vous y laisser. Levez-vous. Voilà encore quelqu'un. Que voulez-vous, Lisette?
J'aurai à vous parler, madame.
Ne voilà-t-il pas? Hé, mamie, revenez dans un quart d'heure. Allez! Les femmes de chambre de mon pays n'entrent point qu'on ne les appelle.
Monsieur! Mais madame, je voulais vous demander. Excuse-moi. Je voulais vous demander. Moi, je suis la pauvre dans les soirs. Mmh. Je suis la bonne de elle, et moi, je dois faire ma riche.
Voilà.
C'est ça? Oui. C'est la riche, elle doit faire la pauvre. Mmh. Et je comprends pourquoi. À peine elle arrive, elle fait des gestes de riche. Bah,
je viens de commencer, il y a des moments. Je viens de commencer.
Dans ce cas-là, il y a des riches.
La scène, après, on verra. Qui dit que je voulais pas faire la pauvre un peu plus tard?
Lorsqu'on entend mis bout à bout Sabine Chaouch d'un côté, donc un extrait de Racine interprété par Maria Cazares, Les Adieux de Bérénice pour être précis, en novembre 1959, et donc ensuite une répétition du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux par des élèves dans un collège de banlieue, dans le film L'Esquive, on peut se demander dans quelle mesure le ton qui est adopté par le comédien pour réciter un texte est influencé ou régi par le texte lui-même. Quel degré d'interprétation y a-t-il, revient-il au comédien dans sa déclamation d'un texte? Est-ce qu'une tragédie doit nécessairement être déclamée d'une certaine façon alors qu'une comédie serait d'une autre? Est-ce que la codification du jeu de l'acteur est dépendante du registre du texte en tant que tel?
Oui, parfaitement. Par exemple, la tragédie qui est en vers, demande évidemment de prononcer toutes les syllabes comme on le fait de nos jours. Mais elle est dans les règles de l'art oratoire, vous avez différentes codifications par rapport à la voix. Ce qui, tout d'abord, on demande évidemment à ce que la voix ait certaines qualités, comme la flexibilité, comme la force, la clarté. Et donc, tout comédien doit avoir une belle voix. Et ensuite, vous avez des codifications, alors il y a ce qu'on appelle l'accent oratoire, et vous avez des différentes variations, soit en fonction des passions, donc par exemple l'acteur qui a un texte tragique doit trouver dans les scènes ou dans le texte qu'il a à dire les différentes passions exprimées, et donc en fonction des passions comme par exemple la colère, la voix va être forte, aiguë, précipitée, si la scène a trait par exemple à un amour contrarié, la douleur va s'exprimer par une voix qui est plus basse, plus lente. Donc l'acteur a à sa portée déjà une codification des passions et il doit donc comprendre le texte, d'où la présence de l'auteur aux répétitions. Et il y a aussi dans l'art oratoire des inflexions ou des variations de la voix qui se font en fonction des parties du discours. Donc, il y avait plusieurs parties du discours, l'exorde, la narration, la confirmation et la péroraison qui correspondaient à une introduction, à un récit, à un argument qui est en fait au clos l'argument et la conclusion à la fin. Et c'est ce type de variations, elles peuvent évidemment s'appliquer à tout ce qui est texte judiciaire. Quand on avait par exemple dans Cinna, toutes les discussions politiques, l'acteur peut appliquer ce type de variation de la voix, ou par exemple l'exorde, introduction, on commence modérément, la narration sur un ton, on va dire, assez calme, la confirmation et la péroraison, la voix va commencer à s'animer de plus en plus jusqu'à l'éclat final, si on veut susciter, par exemple, une émotion intense, soit que ça soit le pathétique ou que cela soit, par exemple, la défense de quelqu'un. Donc, il y a ces règles-là. Il y a aussi des inflexions qui concernent certains mots. Donc, les adverbes, par exemple, ou certains adjectifs vont être prononcés de manière plus forte pour les mettre en valeur.
Mais en réalité, là, on est dans le registre de la rhétorique.
Oui.
C'est vraiment c'est de toujours... la rhétorique. Et donc, c'est un moment où le théâtre n'a pas sa spécificité en tant que tel. Le théâtral n'existe pas encore.
Voilà. Le théâtral, en fait, il n'existe quelque part que dans la vie civile, à la cour, avec le roi qui se met en scène. Mais la théâtralité moderne n'existe pas encore. On applique des règles en fonction... Donc, on analyse le texte pour pouvoir le représenter. Et on se sert aussi de tout ce qui est dans le texte, comme les indications... interne, par exemple, ou les didascalies qui donnent des indications aussi à l'acteur.
Mais ça, c'est intéressant parce que ça permet de penser que le théâtral n'est pas le propre du théâtre et qu'un discours peut être bien plus théâtral dans un tribunal, par exemple, que sur scène. Écoutez.
Qui devons-nous croire ? Un homme respecté de tous et qui, depuis toujours, honore sa position ? Ou bien un amuseur public dont le métier est l'illusion, dont le nom même est un mensonge ? Et dont la fortune fut édifiée sur la mort providentielle de ses deux épouses. Cet homme, messieurs, je le déclare solennellement, cet homme est un faussaire et un imposteur dont nous devons purger la société. Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Oui, monsieur le conseiller, oui.
Qu'avez-vous à dire ?
Tout. Tout ce qui ne concerne pas cet acte que vous avez entre les mains et dont le comte de la Blache et vous-même avez décidé qu'il était faux. Comment établir ma bonne foi ? Je n'ai rien à vous proposer que ma parole, et nous savons ce qu'elle vaut pour les membres éminents de ce Parlement que j'abomine et dont vous êtes le personnage le plus représentatif.
Ah ça, c'est à moi que vous vous adressez ?
Oui, 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 à vous et à l'institution que vous incarnez, qui se soucie beaucoup moins de la vérité que de la protection de ses privilèges. Oui, monsieur le conseiller. Oui, monsieur le conseiller, nous en avons assez des scandales quotidiens qui nous sont révélés chaque jour au réveil et qui, le soir venu, tomberont dans l'oubli. Nous en avons assez des ministres falots qui prétendent nous gouverner alors qu'ils ne savent même pas se conduire eux-mêmes. Mais nous en avons assez des lettres de cachet. Nous en avons assez d'être mis en prison pour des raisons secrètes. De tant d'impostures, ne sentez-vous donc pas que la France est lassée ?
Laissez donc la France tranquille.
Mais c'est qu'elle ne veut plus, justement, rester tranquille. Écoutez-la. Écoutez-la. Et prenez garde.
Monsieur, je vous défends.
Et moi, je vous attaque. Et n'étant pas un maître illustre du barreau, je me contenterai de la pure vérité.
Elle vient, mes amis. Elle est déjà en route.
Mais une fois lancée, monsieur le conseiller, il sera périlleux de vouloir l'arrêter.
Cette enceinte n'est pas la Comédie française.
Eh ben, c'est bien malheureux parce que chez les comédiens, on voit percer souvent une sincérité inconnue dans ces lieux.
Au fait, monsieur Caron.
De bon marché, cher comte. Ma particule est là, je l'ai payée fort cher et elle m'appartient.
Donc le sublime Fabrice Lucchini dans le film Beaumarchais l'insolent d'Edouard Molinaro qui date de 95, on a vraiment ici Sabine Chaouch, l'exemple d'une mise en spectacle, d'une représentation d'un homme qui certes écrit des spectacles mais qui ici se trouve au Parlement, doit se justifier face au juge qui est ici interprété par Jean Yann de certaines de ses actions et on voit la façon dont il se donne en représentation devant le Parlement en usant d'une rhétorique parfaite tout en avançant qu'il est bien dommage qu'il ne soit pas la Comédie française, comme lui fait remarquer son interlocuteur, puisque pour lui, les comédiens sont bien plus sincères que les représentants de l'État. Et on a là vraiment toute la dimension à la fois de la sincérité de la parole ou non. Il dit, pour établir ma bonne foi, je n'ai que la parole, mais ça va me suffire. C'est donc un outil qui est le vecteur de la bonne foi. La parole se suffit en tant que telle. Et en même temps, la prise en compte d'un public, puisque son discours n'aurait pas le même effet s'il n'était pas suivi des rires et des acclamations du public ensuite. On est vraiment comme sur une scène de théâtre ici.
Oui, parfaitement. Si l'on compare avec le XVIIe siècle, le but de l'art de l'acteur était de faire impression, aussi bien imprimer dans l'esprit des spectateurs des images ou des émotions qu'impressionner et donc ravir, transporter, faire rire le spectateur. Parce qu'il y avait aussi, il y avait différents buts dans la rhétorique qui étaient celui de plaire, celui d'émouvoir, mais aussi celui d'apprendre, puisque le théâtre est là aussi pour éduquer les spectateurs. Donc ici, on a, en fait, depuis longtemps, on savait que le monde est une scène, the world is a stage. Donc la frontière entre théâtral et théâtralité dans la vie civile est mince. Et il faut surtout voir aussi, par rapport à la sincérité dans cet extrait, que l'on est au XVIIIe siècle. Donc là aussi, il y a une fracture entre le jeu de l'acteur du XVIIe et celui du XVIIIe, parce qu'au XVIIe siècle, on demande, les codes demandent à l'acteur de fabriquer une image. C'est comme s'il réverbérait des passions à partir du texte. Donc le texte est premier, il doit exprimer tout ce qui est dans le texte, mais au XVIIIe, on demande à l'acteur de s'oublier sur scène, ce qui est différent. C'est-à-dire qu'il a, au lieu de mettre en scène tout parfaitement et d'avoir une certaine distance avec le texte, c'est-à-dire en maîtrisant tous les gestes et la parole, on demande au contraire à l'acteur de s'abandonner et voire même de mal jouer. Parce que quelquefois, quand on joue mal, on est plus sincère. Et le problème au XVIIIe siècle qui est posé est celui-ci. Doit-on suivre ou imiter la nature ? Imiter la nature, c'est le XVIIe siècle, reproduire des gestes, des passions selon des codes, ou alors est-ce qu'il faut suivre la nature, c'est-à-dire est-ce que l'acteur doit s'emporter sur scène, s'oublier, s'abandonner.
Alors il faut distinguer ici d'un côté ce qui distingue, enfin il faut préciser ce qui distingue la nature dont vous parlez, suivre la nature, de quelle nature s'agit-il ? De l'illusion propre au théâtre, et ensuite distinguer entre être naturel et être vrai, puisque là, il y a vraiment une distinction. Être naturel pour un acteur ne signifie pas forcément être dans le vrai, et au contraire, parfois, il faut faire primer le vrai sur le naturel, en tout cas au XVIIe siècle.
Oui, alors le vrai, c'est-à-dire correspondre absolument à tout ce qui est établi. L'impression de vérité, de vraisemblance, elle va naître de l'adéquation parfaite entre l'image que renvoie l'acteur et le personnage, et ce qu'est le personnage. Donc l'acteur a à sa disposition pour jouer les règles de l'art oratoire, mais il a aussi toute une codification selon les personnages, selon le rang, le caractère, le sexe. Par exemple, une femme doit souvent baisser les yeux, elle a une attitude plus réservée. Un jeune homme sera bouillonnant, passionné, tandis qu'un vieillard n'aura pas du tout la même attitude. Donc en matière de théâtre, là, et non pas d'art oratoire, l'acteur doit donc rentrer dans un moule qui est un moule culturel. Comment on perçoit les personnes, il y a les règles, par exemple aussi les règles de l'étiquette qui se mettent en place au XVIIe siècle. Il ne faut pas, par exemple, rencontrer quelqu'un sans enlever son chapeau, bon, ce qui nous paraît de nos jours tout à fait banal, mais il y a aussi toutes ces codifications qui viennent s'ajouter à celles de l'art oratoire. Donc il y a la poétique théâtrale, les caractères, ce à quoi ils doivent ressembler, l'art oratoire, les codifications gestuelles et vocales, et les règles de civilité, la manière donc de se tenir sur scène.
Que votre bouche aussi s'ouvre et se ferme bien. Souvent, d'un seul côté, la bouche se renverse et fait prendre à ses mots un chemin de traverse. Souvent, la bouche ouverte, on a beau s'efforcer, chaque lourde syllabe est une heure à passer. Ici, cet orateur qui pousse une invective, à chaque mot qu'il dit, fait pleuvoir sa salive. Vous donc, de qui la bouche est digne de censure, croyez qu'il est honteux d'en outrer la figure. Ne remuez jamais vos lèvres qu'en parlant, et ne les ouvrez point pour attraper du vent.
Sur un sujet, par exemple, d'amour profane, c'est une chose surprenante de voir comme les comédiennes entrent dans la passion, et qu'elles en expriment toutes les tendresses et les mouvements par leurs chants lascifs et leurs postures engageantes. Voyez celle-ci, pour inspirer l'amour à son amant, avec quel charme elle conduit sa belle voix, comme elle l'élève et perce les nues vigoureusement, puis la rabaisse et la radoucit agréablement, comme elle donne dans le tendre par ses accents et soupirs étudiés, comme elle regarde le ciel avec des yeux languissants pour le fléchir et l'attirer à son secours. Considérez ses gestes, ses regards étincelants, en penchant la tête amoureusement, comme elle tourne ses mains d'une nonchalance affectée, comme elle étend ses bras en croix comme à saint François pour exprimer la douleur qu'elle ressent si bientôt elle n'est unie à son fidèle amant. Elle y emploie même ses larmes et ses regrets, comme une biche navrée d'amour qui ne soupire que pour son dictame. Voyez cette mégère, comme elle se tourmente pour se venger, quelle colère furieuse qu'il a fait crier à pleine tête en chantant désordonnément par les sons aigus et perçants. Comme elle écume de rage par ses mouvements terribles et ses regards affreux contre sa rivale. Quelle tempête l'agite, de sorte que l'on dirait qu'elle va rendre l'âme par l'excès de ses emportements qui font trembler tout le théâtre et jettent l'alarme dans tous les cœurs des assistants.
France Culture, vous êtes sur le Nouveau Chemin de la Connaissance. Il est 10h32 et nous parlons du jeu du comédien aujourd'hui, enfin toute cette semaine et aujourd'hui plus particulièrement de l'art du comédien au XVIIe siècle en compagnie de Sabine Chaouch. Juste avant d'entendre le texte interprété par Anne Brissier, un texte de Louis L'Advocat, tiré des lettres sur l'opéra où il décrit la façon dont les comédiennes ou plutôt les chanteuses d'opéra pouvaient facilement verser dans une exagération un peu ridicule, j'ai lu un extrait du Père sans lec, un extrait que j'ai trouvé dans votre livre Sabine Chaouch, hein, votre livre sur l'art du comédien, le Père sans lec qui lui-même s'amuse à relever les défauts des lèvres d'un comédien, si les lèvres, il faut qu'elles s'ouvrent et se ferment bien, parce que souvent la bouche d'un seul côté se renverse, on a une discussion description très précise ici du mouvement des lèvres, et il est intéressant de remarquer que Molière lui-même se servira de ses défauts pour créer un effet comique, ce qui montre bien ici que l'histoire du théâtre et l'histoire du comédien a une causalité interne. Ce n'est pas seulement la façon dont les mœurs évoluent et dont le rôle du comédien évolue dans la société, mais bien la façon dont les gens qui font partie du métier, que ce soit les auteurs ou les comédiens, se ressaisissent des codes alors en vigueur pour s'en moquer et donc créer une autre manière de jouer.
Exactement. Donc les codes, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient basés sur... avaient trait à un discours sérieux. Donc évidemment, toutes les règles qui sont données sont faites pour avoir une belle déclamation ou une belle éloquence du corps. Et donc, les rhétoriciens ne manquent pas évidemment de cataloguer tous les défauts. Alors ça peut être les paupières, la bouche, ça peut être par exemple le mime qui est interdit dans l'art oratoire, ou par exemple la manière dont on tient son cou. Par exemple, rentrer le cou dans les épaules est un signe de timidité ou de crainte. Donc pour un avocat, évidemment, ce geste est malvenu. Et Molière va se servir de tout ce catalogue de défauts dans ses pièces pour les mettre en scène, en fait. Alors, par exemple, pour ce qui est du geste de civilité, on a la révérence dans le bourgeois gentilhomme. Bon, là, c'est le geste à trait à la civilité où Monsieur Jourdain essaye plusieurs fois des révérences. Il y a aussi la mise en place justement de ces gestes dans certaines pièces de Molière ou par exemple dans les Fourberies de Scapin. C'est Scapin qui apprend à Octave comment... avoir une attitude héroïque ou fière, c'est-à-dire en se tenant droit, en haussant la tête. Donc toutes ces indications en fait viennent des traités de rhétorique et Molière va pêcher abondamment dans ces traités et dans les défauts pour pouvoir se moquer aussi bien des rhétoriciens, à travers les docteurs par exemple, qui évidemment représentent les pédants, donc qui adoptent certains gestes comme celui de l'exhorte que l'on voit beaucoup dans des tableaux, donc l'exhorte c'est l'introduction, où on voit beaucoup dans des tableaux l'index et le majeur tendu, avec le pouce tendu, et c'est le geste de l'introduction que les orateurs ne manquaient pas de faire au début d'un discours. Et Molière, pour tous les savants ou pédants, utilise certains gestes ou donc les défauts pour faire rire les spectateurs.
Et c'est en se servant de ces gestes pour en faire jaillir les défauts comme un ressort comique que Molière va inventer véritablement des nouveaux types de personnages. Avec Molière naissent des personnages types. On a la précieuse qui est toujours avec son miroir, la prude qui fait des grimaces, l'homme de cour avec son air posé. On a vraiment ici une typologie des personnages qui apparaît et qui donc montre que le théâtre, la théâtralité peut naître de par l'épaisseur qui est accordée aux personnages que les comédiens doivent incarner.
Oui, alors Molière, ce sont des nouveaux personnages qui sont aussi liés, encore une fois, au contexte culturel, parce que la précieuse, la mondaine, la coquette, elles apparaissent surtout avec la cour et le développement de la cour et des salons aussi. Et Molière les met en scène, contrairement aux auteurs de son époque. Donc Molière était vraiment très moderne. Donc il a pris des personnages de nouveaux de son époque et lorsqu'il va construire ses comédies, il va se détacher de l'art oratoire en essayant d'inclure le plus possible de gestes tirés de la vie civile ou de la vie quotidienne. C'est ce qui va le différencier des autres auteurs et aussi du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne qui avait la troupe des comédiens du roi, donc qui était la troupe officielle.
C'est-à-dire que le théâtre devient théâtral à partir du moment où il se rapproche du peuple,
voilà.
En réalité.
Où il devient moins codifié, moins guindé, parce que, par exemple, si vous voulez, dans les règles de l'art oratoire, il y avait vraiment une règle canonique qui était de ne pas élever la main plus haut que la tête et ne pas la baisser plus bas que le ventre. Donc, pour un acteur, c'était assez quand même... restreint comme espace de jeu, et c'était une règle canonique. Et par exemple, au XVIIIe siècle, au moment où on se détache des règles, vous avez Michel Baron, qui avait été un compagnon de Molière, qui dit, lorsque la passion le veut, et que l'on met les mains plus haut que la tête, eh bien la passion doit être la plus forte, et je n'ai que faire des règles. Ce qui montre qu'au siècle précédent, donc au XVIIe siècle, ces règles étaient appliquées. Parce qu'on voulait un jeu du comédien décent, surtout évidemment dans les comédies sérieuses ou la tragédie. Mais Molière, lui, va se détacher de ce modèle et justement inventer un jeu de l'acteur, un véritable jeu, parce que basé sur le geste et la pantomime.
Mais alors comment peut-on penser cette mise en place des règles et le respect des règles qui est nécessaire de la part des comédiens, alors qu'à l'époque, le metteur en scène, ce que nous nommons un metteur en scène, n'existe pas? Il y a l'auteur des pièces, il y a les comédiens qui les interprètent, le public qui les regarde, mais la notion de metteur en scène n'existe pas. Alors comment les comédiens sont-ils dirigés? C'est l'auteur directement qui les dirige?
L'auteur les dirige, mais ce sont des troupes. Donc on peut supposer que les acteurs les plus expérimentés vont aussi se concerter. D'ailleurs, Chapuzot, dans son Théâtre français en 1674, évoque les répétitions et dit clairement que les acteurs se concertent et répètent plusieurs fois avant de monter la pièce. Mais les acteurs sont guidés par l'auteur, en fait. Donc, c'est une coopération entre les deux.
C'est une coopération entre les deux, mais qui implique une tierce personne ou un troisième élément qui est le public, puisque le théâtre ne peut devenir théâtral qu'à partir du moment où il se donne en représentation un public qui vient pour regarder le spectacle et qui pourtant n'est pas toujours valorisé par les auteurs eux-mêmes. Écoutez.
Le profit des spectacles exposés dans la tragédie est réservé aux grandes âmes. Que l'illustre naissance, les éminentes dignités ou la bonne nourriture leur donnent cette condition. Que si de l'utilité nous voulons passer aux délices, qui en sont inséparables au jugement des philosophes, il est aisé d'inférer que la multitude grossière ne peut trouver aucun plaisir dans un discours sérieux, grave, chaste et vraiment tragique. Et que ce monstre à plusieurs têtes ne peut connaître pour le plus que des ornements du théâtre. L'activité de son esprit est bornée par ses limites. De croire qu'il soit capable de tirer quelque plaisir d'une fable bien conduite, d'une passion bien excitée, d'un sentiment bien énoncé, c'est le faire plus connaissant qu'il n'est capable de l'être, et trouver de la justesse dans l'ennemi de la raison. Les approbations ignorantes dont il flatte ordinairement les plus imparfaites pensées témoignent qu'il n'a de l'estime que pour les choses ridicules. Et les clameurs tumultueuses dont il étourdit les acteurs au milieu des mouvements font voir que pour le dégoûter, il suffit d'être habile homme et d'écrire parfaitement. Le plaisir intérieur que le poème, bien entendu, produit à un honnête homme qui n'en a pas appris les règles est même trop spirituel pour toucher les sentiments d'un animal si stupide. Et pour ressentir les effets de la scène théâtrale, il faut être fort élevé au-dessus de la populace.
Alors l'auteur de ce texte si peu flatteur, pour utiliser un euphémisme, sur le peuple qui se rend en représentation tragique, c'est Hippolyte Jules Pilet de la Ménardière, qui écrit une poétique en 1639. Et le texte donne à entendre, Sabine Chaouche, la façon dont la rhétorique qui est alors en place et les codes qui viennent régir l'énonciation, l'élocution, le ton des comédiens ne peut pas être uniquement auditif, ce n'est pas seulement une façon de parler, c'est également une façon de se comporter et d'agir. On voit peut-être ici la transition vers l'importance du geste sur scène, puisque le texte montre bien que la populace, comme il la nomme, ne peut pas être divertie uniquement par ce qu'il entend, mais surtout par ce qu'il voit.
Oui, et en fait, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le public qui va au théâtre, comme l'Hôtel de Bourgogne, par exemple, ou plus tard qui ira... voire Molière, était avant tout un public bourgeois ou aristocrate. Donc la populace telle que l'entend la Ménardière est plutôt reléguée sur le pont neuf, aller regarder les batteleurs ou ce que l'on appelait les histrions, parce que justement ce sont ceux qui n'utilisent pas les règles de l'art oratoire, donc qui ont en fait un jeu plus improvisé, plus bas aussi, des gestes plus grossiers. Donc le public du théâtre à l'époque, donc constitué de gens qui ont été éduqués pour la plus grande partie, bien que certains aristocrates n'étaient pas aussi savants qu'on le pense, en fait veut voir un théâtre, une scène qui est relativement esthétisée. Donc ce n'est pas simplement la voix qui doit avoir un effet, mais aussi la contenance extérieure de l'acteur, d'où encore des règles pour qu'il se tienne droit, pour qu'il soit esthétiquement parlant le plus beau possible. Et alors, évidemment, tout acteur difforme est formellement banni du théâtre. Les personnes de petite taille, les bossus, les... On avait d'ailleurs fait une farce à Molière un jour parce que en fait les spectateurs étaient sur les côtés de la scène et un ami de Molière avait payé des places à des bossus et un jour une des pièces s'est ouverte avec deux rangées de bossus sur les côtés.
Mais il paraît assez normal que les comédiens difformes ne soient pas bienvenus sur scène, puisque c'est quand même un art de la représentation, et surtout un siècle où, vous l'avez dit, l'importance de l'esthétique est telle qu'il y a un devoir de... Enfin, à l'importance de l'esthétique, qui est toujours actuelle, s'ajoute un devoir quand même de bienséance et d'une certaine tenue qui passe par toute une étiquette de tenue du geste et du corps. Mais on peut vraiment parler ici d'éloquence du corps, il me semble. C'est ça qui est important, peut-être, dans la période dont nous parlons, le passage du XVIIe au XVIIIe siècle, et notamment avec l'intervention et l'apparition de Molière, la façon dont le théâtre se déplace de la simple élocution, de la simple rhétorique, vers le corps qui devient investi par le comédien, et le corps qui va parler en tant que tel. On peut vraiment parler d'une éloquence du corps, il me semble.
Oui, alors l'éloquence du corps, elle est dans la rhétorique. Et c'est en fait avoir la posture, la contenance la plus belle possible, c'est-à-dire une mise en scène de soi esthétisée. Et bien, ça ne veut pas dire que l'acteur doive s'abandonner, par exemple, à un élan personnel. Il doit toujours rester dans le cadre de cette mise en scène de soi. Et petit à petit, surtout avec Molière, on va sortir de ce carcan gestuel et on va aller vraiment à quelque chose de plus libre et voire même à des scènes purement théâtrales, purement de jeu de scène. Le jeu de scène va se développer de plus en plus avec Molière, bien que dans les années 1630, il y eut la tragicomédie, qui était un genre assez un peu fou, où il y avait de multiples péripéties et où les acteurs bougeaient beaucoup sur scène. Mais c'est à partir de Molière que le jeu de scène va prendre de plus en plus d'importance. Et se détacher du texte surtout.
Sans pour autant renoncer au texte, puisque Molière ne tombe pas dans la pantomime, mais il accorde énormément d'importance au texte qu'il écrit. Il refuse de réécrire le Tartuffe qui est alors censuré à l'époque. Il y a quand même vraiment il existe en tant qu'auteur, autant que metteur en scène, même si ça n'existait pas, mais en tant que personne qui va diriger des comédiens.
Oui, alors le texte subsiste, mais il rajoute de plus en plus de jeux de scène qui peuvent être indépendants du texte et qui nous sont donnés, nous, lecteurs du XXe siècle, par les didascalies, en fait. Toutes les didascalies qui décrivent ce que font les acteurs traduisent cette importance du geste.
Eh bien, combien voyez-vous de ces orateurs de nature qui parlent avec une action du corps, si inepte, si irrégulière, que j'admire la patience d'un auditeur assez complaisant pour souffrir dans le silence le ridicule avec lequel ils se produisent. On en voit qui ont la tête raide et le corps comme empalé. D'autres ont le visage hardi et l'air soldatesque d'un Julien. Ils ouvrent la bouche avec autant de violence qu'ils semblent vouloir y faire entrer leur auditoire. Ils mugissent dans leurs ailes colériques. Leurs doigts volages semblent tracer en l'air toutes les lignes de mathématiques.
On est fatigué, on veut plus chanter.
Forçat du Gosier, ces chansons plus biflées qui nous accompagnent pour la fin de cette émission. Merci beaucoup Sabine Chaouche d'être venue nous parler aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à deux de vos ouvrages notamment, donc L'art du comédien, déclamation et jeu scénique en France à l'âge classique, et l'autre que vous avez dirigé, Le théâtral de la France d'Ancien Régime, de la présentation de soi à la représentation scénique. On trouve ça aux éditions Honoré Champion. Je renvoie également à un magazine que vous dirigez, Sabine Chaouche, The French Mag, un magazine consacré aux arts du spectacle et qui s'adresse autant aux érudits, aux experts qu'aux novices. Et le magazine est en ligne, vous trouverez le lien sur le site internet de Nouveau Chemin. Nous sommes des forçats du Gosier, il est temps de céder la parole, et en l'occurrence à François Nudelmann pour son journal de la philosophie. Bonjour François.
Bonjour Adèle. Le philosophe et écrivain Julien Bindin est mort en 1956, mais l'on retient surtout de lui un essai de 1927, La trahison des clercs, qui reprochait aux intellectuels de se dévoyer dans les passions politiques. Aujourd'hui, Pascal Angèle ressort Julien Bindin du placard pour glorifier un intellectuel à contre-courant. Son livre s'appelle « Les lois de l'esprit, Julien Bindin ou la raison », paru chez Ithac. Pascal Angèle, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de Genève et vous publiez un gros volume sur cette figure plutôt oubliée. Vous évoquez dans votre introduction une histoire intellectuelle personnelle où vous disiez que vous vouliez trouver ailleurs qu'en France autrefois des figures de la raison. Vienne 1900, l'Angleterre 1920, les États-Unis 1960 et finalement, chez vous, chez nous, il y avait cette figure de Julien Binda qui incarne une exigence de vérité hors de toute concession au temps, dites-vous. Alors, pourriez-vous nous dire ce qui motive ce choix et cette sortie du placard ?
Il y a deux sorties du placard. Il y a celle de Binda lui-même, qui est un auteur qui, à mon avis, mérite une ressortie du placard, où il n'est pas du tout un squelette, mais un être très vivant. Et d'autre part, il y a ma sortie de mon placard à moi, c'est-à-dire le fait que, bien souvent, on m'a dit que quand je me disais rationaliste, partisan de l'argumentation, de l'analyse, de la raison, je me prosternais devant des formes de rationalité étrangères à celles de notre beau pays et que je devrais peut-être un petit peu regarder du côté de ma porte. Et de fait, depuis longtemps, je lis des auteurs français rationalistes. Je pense qu'il existe une petite tradition rationaliste assez minoritaire en France et que Binda en fait partie. Et donc j'ai retrouvé chez lui, finalement, un peu comme dans la lettre volée, ce que j'avais finalement toujours eu devant moi. Et j'ai été très content je l'avais déjà lu, comme on a lu, tout le monde a lu La Trahison d'Éclair, mais j'ai découvert son œuvre plus en profondeur.
Oui, d'ailleurs, œuvre assez considérable, parce qu'on retient un livre, mais il y en a beaucoup d'autres.
Il y en a 40.
Même, oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quand même ce que vous entendez par ce rationalisme ? Parce qu'on pourrait dire, après tout, déjà Descartes incarne un certain rationalisme. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, le terme de rationalisme ? Quelques principes de ce rationalisme-là ?
Oui, alors j'ai essayé d'extraire de Binda autre chose que ce qu'on pourrait appeler le rationalisme militant, qui est celui qu'on connaît le mieux, le rationalisme des Lumières, c'est-à-dire l'esprit de la critique, de l'examen, qu'il a défendu à l'instar de Voltaire, qu'il a préfacé, de tout un tas d'autres auteurs. Mais j'ai essayé d'analyser son rationalisme comme un rationalisme pour aujourd'hui. Je pense que le rationalisme, c'est évidemment la théorie d'après laquelle il y a des principes de la connaissance qui échappent à l'expérience, qui sont constants, sont, disons, transhistoriques. Mais c'est aussi l'idée qu'on doit pouvoir avoir une connaissance objective de la réalité. Et j'utilise Binda comme une sorte de papier tournesol qui me sert de test par rapport à ce rationalisme qui me semble aujourd'hui à la fois à reconstruire et en même temps particulièrement bafoué depuis de nombreuses années. Donc Binda, c'est un petit peu effectivement une sorte de porte-drapeau. Donc il y a un peu deux livres dans mon livre. Il y a celui que je fais en tant que disons, reconstructeur de Binda. Et puis, il y a un deuxième livre où je ne craindrais pas de dire, à la manière d'un auteur célèbre, Binda, c'est moi.
Oui. Bon, alors justement, ce Binda, c'est vous. Qui se cache derrière Julien Binda ? Pascal Engel, oui, mais contre qui écrivez-vous ce livre ? Parce qu'on sent bien qu'il y a une réhabilitation, vous sortez Binda de la naphtaline, et pour le meilleur, parce qu'effectivement, on gardait un peu l'idée de ce défenseur des valeurs cléricales, statiques, désintéressées, rationnelles, comme il le clamait dans sa deuxième édition de La Trahison d'Éclair. Mais on sent quand même qu'effectivement, vous attaquez ceux qui ont contesté la raison, que ce soit du côté d'Adorno et d'Horkheimer après Auschwitz, ou que ce soit du côté de ceux qui ont déconstruit le logocentrisme, du côté de Derrida. Finalement, est-ce que vous ne vous servez pas de Binda pour régler vos comptes avec ceux-là, avec ceux qui, les contempteurs du logos ?
Oui, on peut dire évidemment que je fais ça, mais en même temps, je ne fais que simplement une archéologie de l'opposition à la raison. En fait, Binda s'est opposé à toute une tradition française qui est une tradition qu'on a appelée de façon variée la tradition spiritualiste, mais également toute une tradition dont il a montré qu'elle découlait assez largement de Bergson. Donc je m'oppose à toute une lecture de l'histoire de la philosophie française, c'est une des choses que je fais. Je m'oppose par ailleurs aussi à des gens qui n'ont pas vu que la raison s'incarnait dans un ensemble de normes. C'est un des grands thèmes de mon livre et aussi de mon propre travail philosophique, notamment des normes éthiques, des normes intellectuelles, des normes politiques. Et j'essaie de reconstruire ce que pourrait être une conception, disons, rationaliste de la vérité, de la politique, mais également de la connaissance littéraire. Alors je crois que Binda, qui était un petit peu contre tout et qui est présenté comme une sorte de vieux schnock qui se crognonneuse, une sorte de colonel Bramble avant la lettre ou après la lettre, était aussi quelqu'un qui voyait en réalité loin et qui avait parfaitement compris des constantes de l'antirationalisme.
Oui, oui. Bon, alors on peut contester l'antirationalisme, mais est-ce qu'on peut quand même encore dire que la vérité n'est pas située, qu'elle est transcendante à toute temporalité? Alors, non seulement après Adorno ou Derrida, mais aussi après, je ne sais pas, après Nietzsche, après Freud, qui interroge le désir de vérité, qui essaye de déceler aussi le pathos de la rationalité. Donc, est-ce qu'on peut quand même encore le dire tel quel? Au nom de quoi vous pouvez affirmer avec Binda ce rationalisme-là?
Oui, on a souvent dit, justement parce qu'on était influencé par une conception historicisante de la raison, dans laquelle on pensait que les principes de la raison étaient malléables et flexibles au même titre que peuvent l'être les époques et le temps. C'est un thème constant dans la pensée française. Vous l'avez de Bachelard, en passant par Brunschvig, puis ensuite, après, dans l'histoire philosophique des sciences qui a été menée après la Seconde Guerre mondiale. Il y a cette idée, effectivement, que la vérité et la raison sont toujours situées, contextualisées. Binda est présenté comme une sorte de défenseur d'une Minerve hiératique, et c'est ce qu'on lui reproche. Mais à mon avis, il y a absolument besoin de renoncer à aucune des deux images si on veut avoir une conception convenable de la raison. C'est pas parce que un grand nombre de positions philosophiques, un certain nombre de problèmes sont situés, contextuels, inscrits dans le temps, que pour autant on peut pas se placer d'un point de vue objectif, du point de vue de principes rationnels assez unifiés pour juger ce temps. Il n'y a que les conceptions, si vous voulez, les plus relativistes, les plus contextualistes et les plus radicalement particularistes qui conduisent à cette destruction complète de l'idée de raison. Mais une conception, Binda était parfaitement capable de comprendre, par exemple, qu'il y avait une histoire des sciences. Il n'a jamais prétendu que Minerve était sortie toute armée de la cuisse de Jupiter.
Merci beaucoup, Pascal Angèle. Il faudrait dire aussi beaucoup de choses sur l'intellectuel engagé, parce que c'est aussi un faux sens quand on imagine que Binda était dans le retrait. Au contraire, il était dans un engagement très fort.
C'est quelqu'un qui a pensé la politique, voilà, dans le présent. Et c'est le contraire de l'intellectuel de la Tour d'Ivoire. Mais ça ne l'empêchait pas de proposer ses principes au nom de l'éternel.
Absolument. C'est à lire donc dans Les lois de l'esprit, Julien Binda ou la raison, paru aux éditions Itac. Vous pouvez retrouver et podcaster le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci François. Ainsi s'achèvent Les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au jeu du comédien. Demain, pour la suite et fin de cette semaine, je recevrai Florence Dupont qui viendra vous proposer une lecture subversive et originale de la poétique d'Aristote. Aristote qui aurait sucé le sang et la moelle du théâtre occidental et qui serait responsable du fait qu'aujourd'hui, au théâtre, on s'ennuie. En tout cas, c'est ce que Florence Dupont nous dit. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez en ligne toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour et celle de cette semaine. Vous pourrez également la télécharger, podcaster l'émission afin de l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Et comme tous les jours, un grand merci à la comédienne Anne Brissier qui interprète les textes pour nous cette semaine. Thank you.